Alors effectivement, c'est un privilège pour moi de partager avec vous. C'est un petit peu une responsabilité, mais on a prié pour ça. Et comme Valérie le disait, je suis persuadée que le Seigneur veut bénir abondamment. Alors comme la dernière fois, mon PowerPoint ne démarre pas. C'est normal. Pour l'anecdote, la dernière fois, donc... Voilà, là j'ai rien. J'ai rien à l'écran. Demain, d'ailleurs, ça va faire pareil. J'interviens avec la même tablette sur le plan professionnel, mais à la maison de la justice et du droit, face à des gens qui ont des obligations, enfin voilà, qui sont fait prendre par la justice pour des problèmes de stupéfiants, puisque c'est mon métier. Et au moment où j'ai mis en route ma tablette avec le PowerPoint du travail, au lieu de l'association est apparu. De l'esprit au corps. Alors j'ai vite coupé, j'ai dit à ma collègue, t'inquiète pas, c'est pas ça. Voilà, donc bon, là c'est réapparu. Mais voilà, c'est. Première chose, ça va être la continuité de ce que j'ai dit la dernière fois, je vais beaucoup me répéter parce que vous imaginez bien que tout se tient. Hein, y a pas, on est, y a pas de séparation, y a pas de frontières, c'est tout se tient, tout est un tout. Donc c'est des espèces d'éclairage que je vais vous apporter. Ça va être la continuité de la dernière fois. Donc pour celles qui le souhaitent, on diffusera, c'est pour qu'ils les ont pas récupéré les textes de la dernière fois, et puis on rajoutera ceux de cette fois-ci en fonction de ce que je vais en rajouter ou pas, de ce que je vais dire ou pas. Donc, première chose, je vais faire un petit rappel. Comme je l'avais dit la dernière fois, par principe, hein, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais il vaut mieux les dire. Donc, première chose, ce que nous évoquons n'a absolument pas pour but de condamner les personnes. C'est-à-dire que tout le monde est concerné. Ce que nous vivons les unes et les autres, nous le vivons différemment. C'est juste un éclairage pour comprendre ce qui se passe en nous et pour comprendre aussi comment Dieu aimerait que nous le vivions. D'accord? C'est-à-dire que nous sommes dans un corps, nous avons une tête qui pense, qui vit, qui ressent, et tout cela, on va essayer de le comprendre. Chacune d'entre nous a des compétences différentes. Ces compétences, c'est nos capacités qui se sont construites au fil des années. Alors, on est plutôt meilleur dans certains domaines, puis moins dans d'autres. Après, je sais que les personnes qui ont beaucoup souffert pour les croiser dans mon travail, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en fait, je suis infirmière auprès de personnes addictes. Toute forme d'addiction, alcool, toxicomanie, compulsion alimentaire, écran pour les plus jeunes. Souvent, les personnes, quand elles arrivent, elles disent mais moi, je suis bon à rien, je suis une bonne à rien, je sais rien faire. Je leur dis, attendez, déjà, vous avez franchi la porte d'un établissement qui s'appelle addictologie. Je peux vous assurer qu'il faut beaucoup de courage. D'accord? Ça, c'est une compétence. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que, à travers tout ce qu'on va dire, vous ne laissez pas piéger, à vous culpabiliser, surtout pas. On a des aptitudes et Dieu a forcément mis quelque chose en vous. Les liens, alors autre chose, parce que suite à la dernière fois, quelqu'un m'a dit, mais alors la maladie que j'ai est complètement liée à ce que j'ai vécu. Ce n'est pas systématique, hein, ce n'est pas on-off, ce n'est pas tu gagnes ou tu perds. C'est-à-dire que c'est un ensemble de paramètres qui vont faire que, dans certaines circonstances, ça peut arriver. Je vous prends un exemple, vous savez toutes que quelqu'un qui est très fatigué est plus susceptible d'attraper la grippe que quelqu'un qui l'est moins. C'est évident. Encore faut-il croiser le virus de la grippe. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a la fatigue qui va jouer, il y a la grippe qui va jouer, peut-être aussi la façon dont on s'est habillé, il y a un certain nombre de choses qui vont jouer. Il n'y a pas que un phénomène à chaque fois, c'est ce que je vous disais, tout se tient un petit peu. Ce qu'on va essayer de voir, c'est les éclairages sur des points particuliers. Autre chose, c'est que ce qu'on va évoquer, ça touche à l'intime. Et ça peut être difficile à comprendre ou à entendre, mais je fais confiance au Saint-Esprit. Il va donner à chacune la compréhension de ce qu'elle a besoin. Peut-être même une compréhension dans ce que je dis que je n'avais pas la conscience de dire moi-même. Des fois, ça surprend, mais Dieu peut parler comme ça. Alors, juste vite fait, nous sommes donc partis, vous en souvenez, d'Ézéchiel 37. Tu peux tout mettre. Où cette vallée d'ossements mort, dispersé, Dieu va tout rassembler. Je ne vous le relis pas parce que je voudrais qu'on avance un petit peu. On l'a déjà lu plusieurs fois au cours des différentes réunions. Ce que Dieu veut, c'est remettre de la vie, d'abord en reconstituant le corps et notamment à la fin, en mettant des nerfs. Les nerfs, c'était cette notion de tout ce qui touche au système nerveux, c'est-à-dire le cerveau, la compréhension, mais aussi la sensibilité. C'est aussi les émotions. On peut mettre tout ça sous les nerfs. Dieu veut revêtir aussi de chair, c'est-à-dire les muscles, c'est-à-dire la capacité de se mouvoir, c'est la capacité d'être en contact les uns avec les autres. Et puis enfin, de la peau, qui est censée nous protéger, mais la peau, on va le revoir, c'est aussi notre identité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je le vois très très bien ce soir, on est toutes différentes. J'en ai pas de pareil en face de moi. Et ça, c'est notre enveloppe corporelle qui va faire cette différence. Et puis, par la suite, on va voir qu'il va continuer de prophétiser. Et là, on est face à des cadavres, en fait. C'est-à-dire que même reconstitué, ça reste des cadavres. Ce qu'il va falloir, c'est que Ézéchiel dise au souffle, à l'esprit, de souffler sur ces morts pour qu'ils revivent. Et si Ézéchiel doit souffler, c'est pour que l'esprit de vie revienne dans les corps et qu'à partir de ce moment-là, les corps reprennent vie. Vous savez, il y a des gens, ils sont morts à l'intérieur. D'accord ? Et là, Ézéchiel, il dit, ok, Dieu le dit à Ézéchiel, ok, j'ai reconstitué ces corps, mais tant qu'il n'y a pas de vie, ça reste un cadavre. Et donc, il va falloir qu'il y ait la vie, sinon ils vont se redécomposer. Et non seulement ils revivent, mais cette parole me plaît, parce qu'ils disent, l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se dressèrent sur leurs pieds et furent une armée immense. Un, ils vivent. Deux, ils sont debout sur leurs pieds. Et pour moi, ça me fait penser à un retour de dignité. Ils ont retrouvé la dignité. Vous savez, quand on marche la tête haute, c'est qu'on a retrouvé sa dignité. Mais en plus, ils sont devenus une armée qui part au combat. Dans l'armée, ils font des visites médicales, ils ne prennent pas n'importe qui. D'accord ? Ils ne prennent pas les gens dans n'importe quelle condition. Et là, Dieu veut nous embarquer. Il veut nous enrôler dans son armée. Et vous savez quoi ? Ça tombe bien, c'est l'armée du vainqueur. Tant qu'à faire. Alors, on va rentrer un petit peu dans le sujet, toujours ce qu'on a vu tout au long de ces mois, le lien entre l'esprit, l'âme et le corps. Ce que je suis. Vous vous souvenez, à la chute, l'homme a choisi de ne plus, on va en reparler, c'est pour ça que je reprécise à ce moment-là, l'homme et la femme ont choisi d'être autonomes vis-à-vis de Dieu. Ils ont choisi de connaître par eux-mêmes, par leurs compétences, la différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire que normalement, c'est Dieu qui nous dit ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Et dans la chute, quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont en quelque sorte pris une autonomie vis-à-vis de Dieu, dans le sens où ils se sont dit, pas besoin de Dieu pour savoir ce qu'il y a de bien et mal. On va l'avoir en nous, en mangeant le fruit. Et Satan leur a bien dit, vous serez comme des dieux. Et à ce moment-là, Dieu va les sortir du jardin d'Éden, et c'est l'Esprit de Dieu qui est sorti d'eux aussi en même temps. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on redevienne un tout. Donc, on a un esprit. On a aussi une âme. Alors, pour rappel, ce qu'on va appeler l'âme, c'est ce qui constitue notre vie intérieure. Alors, grand débat, est-ce qu'on l'appelle le cœur ? Est-ce qu'on l'appelle l'âme ? Est-ce qu'on l'appelle je ne sais comment ? Il y a plein de noms dans la Bible. Ce qu'on va y mettre, nous, là-dedans, c'est tout ce qui touche aux émotions. Hein, je ne sais pas si vous savez qu'on a des émotions hein, positives, négatives. Et qu'est-ce que ça retentit bien sur le corps ? C'est aussi notre intelligence. Eh ouais ! Vous savez quoi ? Dieu, il a voulu qu'on soit des êtres pensants et qui réfléchissent. Et c'est aussi notre volonté. Et quand on s'approche de Dieu, ces trois choses-là doivent être sous la volonté du Saint-Esprit. Eva nous l'avait très bien expliqué. Et tout ce qui touche de l'âme, Dina nous en a beaucoup parlé. Et donc, le corps, c'est le contact extérieur. C'est la partie que l'on voit. Dans notre société, c'est même la partie dont on s'occupe le plus. On commence à s'interroger sur l'âme. C'est pour ça qu'il y en a qui font des études de psycho. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont aller chercher de ce côté-là. Mais la grosse, surtout en France, ce qui est mis de côté, c'est l'aspect spirituel, esprit spirituel. Voire même, j'ai assisté à une conférence où il y a quelqu'un qui dit: et si on parlait du spirituel, mais on est en France et on n'a pas le droit d'en parler. Un médecin à Haut-Pont, ça fait partie des choses qui en France sont tabous. Mais nous, eh ben c'est bien parce qu'on a Dieu. Et je vous rappelle que le Saint-Esprit, Jésus a dit: je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, qui habitera en vous. D'accord? Donc dans notre corps. Ensuite, un autre préalable. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais expliqué ça. Nous sommes dans un processus de croissance de tout notre être. Comme Jésus, il est dit que Jésus continuait de grandir, son intelligence s'affinait et se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. C'est-à-dire que Jésus, il a grandi physiquement. Jésus, il a développé son intelligence. Même on peut supposer que s'il savait lire, c'est qu'il a été à l'école. Puisque, vous savez, quand il avait 12 ans, il est allé lire. Jésus savait lire, ce qui n'était pas le cas de tout le monde à l'époque. Jésus savait lire, il était allé à l'école, il a étudié les Écritures. Et puis, il a grandi spirituellement devant Dieu, donc devant les hommes socialement et devant Dieu spirituellement. Mais c'est un processus. Nous avons un petit bébé parmi nous, le petit David, si j'ai bien compris. Est-ce que ça viendrait à l'idée d'une d'entre vous de lui confier ses clés de voiture là maintenant? D'accord? Pourtant, c'est un être humain. Et à un moment, alors peut-être que quand il aura l'âge, ça ne sera plus des clés sur les voitures, mais à un moment, il aura cette capacité. Il est tout équipé pour. Mais aujourd'hui, il ne peut juste pas. Voire même simplement vous lui proposer une cuillère, une fourchette, un couteau, un beefsteak, je pense que ça ne va pas marcher. Hein, c'est un peu tôt là. Hein. Donc, vous voyez bien qu'il est dans un processus de croissance. Eh bien, quand on revient à Dieu spirituellement, quand Dieu va remettre en route notre esprit, c'est un processus de croissance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, tout soit fait. Et souvent, les gens, ils disent: ah, il est chrétien, lui. Bah, t'as vu ce qu'il a fait? Bah oui, il est encore en train d'apprendre. Hein. Et comme nous a expliqué le pasteur hier, voire même des fois, c'est dans les galères qu'on apprend. Alors, on va arriver sur notre corps. Je vais très rapidement vous donner quelques éclairages sur la fonction du corps. Vous allez me dire: Marie-Do, t'es mignonne, mais on le vit au quotidien avec. Ouais, mais là encore, ça va sans dire, mais c'est encore mieux en le disant. Donc, quelques éclairages, vous allez voir. Je ne vais rien vous apprendre, c'est juste remettre un petit peu les idées dans des cases. Mais vous n'allez rien apprendre dans ce que je vais vous dire. Alors, notre corps, comment on le définit? Ben d'abord, c'est la première chose que l'on voit de nous. Vous êtes bien d'accord? C'est ce qui va nous différencier des autres. Tout d'abord, par notre silhouette. Alors, on n'est pas toutes pareilles. Je ne vais pas vous demander de vous lever pour comparer. Hein, oh, puis les femmes le font très très bien, la comparaison. On n'a pas toutes la même corpulence. On n'a pas toutes. Alors déjà, et puis déjà, à l'origine, normalement, on a un sexe. Ça peut arriver que ce soit mal défini, mais physiologiquement, tel que Dieu nous a créés, il y a un sexe. Après, avec les codes génétiques, ça peut être différent. On a des caractéristiques ethniques. C'est-à-dire que, suivant là où on est né, suivant nos origines, on va avoir des caractéristiques physiologiques. De couleur de peau, de forme de visage, de forme de corps, de taille. Vous avez des tailles où les personnes sont plus ou moins grandes. On va avoir des caractéristiques qui nous rattachent à là où nos ancêtres, quelque part, ont traîné un jour. Et puis, notre corps, il va se modifier. Bon, vous ne m'avez pas attendu non plus pour le savoir. Avec l'âge, d'accord? Quand j'étais prof et je faisais le cours sur le vieillissement, c'était toujours compliqué de parler du vieillissement. Notre corps vieillit. Hein, et ça, depuis la chute. Pourquoi? Parce que, in fine, il va mourir. Alors, bon, c'est pas un scoop non plus. Donc, on n'empêchera pas ce corps de vieillir. La science a beau reculer les marges, à un moment ou à un autre, de toutes les façons, in fine, on mourra. Notre corps peut se modifier par la maladie. La maladie, quelle qu'elle soit, peut modifier notre corps. Il y a des maladies qui modifient plus le corps que d'autres. Que ce soit des maladies physiologiques, enfin, elles sont toutes plus ou moins physiologiques, mais je veux dire, des maladies type, je ne sais pas, diabète, des maladies... Elles peuvent modifier notre corps, notamment toutes les maladies aussi qui vont invalider le corps. Et les malades, je pense par exemple au cancer, où pour pouvoir sauver la personne, on va devoir enlever chirurgicalement une partie du corps. Et de fait, ça modifie le corps, ça modifie l'image de soi. Et puis vous avez le handicap. Les personnes en situation de handicap peuvent vivre quelque chose de visible. Ça ne se voit pas toujours, le handicap, notamment dans les pathologies au niveau psychique ou psychologique, mais c'est surtout le handicap physique qui va se voir. Et puis, les autres peuvent atteindre à notre corps, soit par le contact. Ce soir, il y a beaucoup de sœurs qui m'ont fait la bise. Ben oui, on se serre la main, on se salue, mais souvent on se touche. D'ailleurs, ce contact, il y a beaucoup d'études qui sont faites dessus. Le fait qu'on vous touche, avec douceur, va déclencher chez vous des hormones qui vont vous envoyer une sensation de bien-être. Ça s'appelle notamment l'ocytocine. C'est la même hormone qu'à avoir quelque part dans l'accouchement, d'ailleurs. Malheureusement, des fois, le contact, il peut être agressif. C'est la violence, on va en reparler. Et puis, ce que les autres peuvent atteindre, c'est nous apprécier ou nous rejeter. Et ça, nous, les femmes, on est bien sensibles à l'appréciation ou le rejet des autres. Ensuite, notre corps, qu'est-ce qu'on peut en faire? À travers l'hygiène de vie, on peut l'user avant l'heure, on peut l'entretenir, on peut le rendre malade. Vous voyez bien, ne pas dormir, manger trop, ne pas manger, ne pas se laver, enfin voilà. On peut aussi le mettre en danger, dans certaines circonstances. Typiquement, les gens que j'accompagne, ils mettent leur corps en danger à travers les substances qu'ils mangent ou qu'ils boivent ou qu'ils fument ou je passe le reste. Et puis aujourd'hui, on peut même le transformer, ce corps, par la chirurgie esthétique. On peut le transformer aussi dans son apparence par certains tatouages. Et puis voir aujourd'hui, on peut même transformer un corps de femme en homme et un corps d'homme en femme. Ne me posez pas la question si c'est réversible ou pas, je ne sais plus. On m'a déjà posé. Là n'est pas l'objet. Et puis, ce corps, il va nous transmettre ce qui nous environne. Alors d'abord, au niveau physique, c'est par le corps qu'on va savoir s'il fait chaud ou froid. D'accord ? Si on prend... Si ce soir c'était filmé, quelqu'un qui serait à l'extérieur ne pourrait pas savoir s'il fait chaud ou froid ici. D'accord ? C'est par notre corps que nous avons ces sensations, c'est par notre corps que nous avons les notions de température, voire même notre corps nous dit si l'air est humide ou pas. Et puis, c'est par notre corps qu'on va avoir les sensations de plaisir ou de souffrance. Le plaisir que dans la tête, d'accord ? La souffrance que intellectuellement... D'accord ? Donc, notre corps est fait pour ressentir. Ceci dit en passant, d'ailleurs, je ne sais pas si j'en reparlerai, mais vous savez que notre corps est fait pour le plaisir. Dieu a voulu que nous ayons du plaisir, mesdames. D'ailleurs, physiologiquement, il y a deux fonctions que Dieu a voulu qui procurent du plaisir à l'être humain. L'alimentation, sinon on ne se nourrirait pas. Et la reproduction, sinon on resterait seul. Et physiologiquement, on l'étudie, ça, c'est ce qu'on appelle les circuits de récompense. Dieu a prévu le plaisir dans un certain cadre, dans certaines limites, dans des limites, je veux dire, sociales, dans des limites de lieu, des limites de personne. Mais c'est, notre corps est fait pour ça. Et il n'y a pas de mal à le ressentir dans ce que Dieu a donné. Ou même, par exemple, le plaisir d'un bon moment de louange. Ça, Dieu l'a voulu. Alors, notre corps, toujours, il nous permet de nous déplacer et puis d'être en contact les uns avec les autres. OK, c'est à la mode en ce moment, il y a des hologrammes. mais c'est quand même vachement plus sympa d'avoir la personne en face de soi, d'accord ? On peut aussi avoir un contact par Skype. Bon, s'il y a des kilomètres et des décalages horaires, ouais, c'est pas mal, mais c'est quand même mieux quand on peut être face à face et se voir, d'accord ? Hein ? Notre corps, c'est ce qui nous permet d'être en contact avec les autres. Alors, aujourd'hui, clairement, par rapport à tout ça, grâce à la science, on peut comprendre comment ça fonctionne. Et on comprend, aujourd'hui, on peut, de plus en plus, la science comprend. On arrive même à trouver, je vous parlais du plaisir, c'est une zone qui est très... Enfin, il y a plusieurs zones dans le cerveau et c'est étudié. On étudie comment, tout ce que je vous expliquais la dernière fois, comment des souffrances psychiques peuvent retentir sur notre corps, on l'étudie. On peut comprendre même où se situent les émotions. Enfin, il y a plein de choses. Mais, aujourd'hui, personne ne connaît mieux notre corps que nous. Sauf que on peut avoir une vue très faussée. On peut avoir une vision très... comme si on voyait avec des filtres. D'accord ? Est-ce qu'on se connaît vraiment ? Est-ce qu'on a conscience de qui nous sommes ? Est-ce qu'on a conscience aussi de quelle place on met notre corps ? Quelle place on met notre corps entre un amour excessif, une honte ou un dégoût ? Où est-ce qu'on se situe dans tout ça ? Alors maintenant, je vais aborder tout ce qui touche aux atteintes du corps. Alors les atteintes au corps peuvent être héréditaires ou congénitales. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé. Congénitales, c'est tout ce qui est au moment où on est. D'accord ? Ces atteintes-là, c'est celles qui vont faire ce que j'ai évoqué, notre origine ethnique, ça c'est héréditaire. Il y a certaines pathologies qui sont héréditaires. Et puis il y a des choses qui arrivent à la naissance ou parce qu'il s'est passé quelque chose au cours de la grossesse ou à la naissance. J'ai envie de dire ça, c'est des atteintes, on n'y peut pas grand-chose, mais c'est un fait et ça peut même être vécu comme de l'injustice dans certains cas. Ensuite, vous avez, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les atteintes liées à la maladie. Notamment le cancer, hein, c'est une maladie qui peut avoir des graves conséquences sur les femmes, sur leur identité. Les maladies de peau, par exemple, qui font que on voit, je ne sais pas si vous avez déjà croisé quelqu'un qui a un psoriasis. C'est une pathologie, c'est une maladie qui est complètement en lien avec l'angoisse et le stress. Et ces personnes, quand elles stressent et qu'elles angoissent, elles font des plaques. Et vous ne savez pas. Et vous venez voir en faisant « Oh, mais t'as des plaques là !» Et vous, on augmente le truc. C'est, voilà, vous avez des maladies comme ça qui sont plus visibles que d'autres. Après, vous avez toutes les atteintes du corps liées à l'âge. Ben oui. Hein. Y a un moment où le corps se développe, il y a un moment où le corps s'améliore, et puis avec l'âge, et on s'en aperçoit assez vite, parce que le temps va vite, ben y a des choses qu'on perd. Il y a des choses dont on est moins... on est plus ralenti, on va avoir moins de finesse. Et puis, il y a toutes les conséquences, les atteintes au corps, toutes les conséquences des violences extérieures. Ça peut être, par exemple, un environnement professionnel où, dans notre activité professionnelle, il y a des atteintes corporelles. J'ai travaillé en médecine du travail, vous avez des personnes qui avaient des douleurs de dos, on avait des personnes avec les produits chimiques qui peuvent faire des gros dégâts sur le corps. Voilà, vous imaginez toutes les ambiances possibles. Vous avez aussi des violences extérieures qui peuvent être des violences directement sur le corps, que ce soit dans le cadre d'attentats en ce moment, que ce soit une violence gratuite. Mais je crois que la plus terrible des violences sur un corps de femme, c'est les violences dans la famille. C'est les atteintes et j'irais jusqu'à dire les effractions, c'est-à-dire quand il y a quelque chose, je suis désolée de le dire, mais il y a des choses dont on ne parle pas pourtant qui font excessivement mal et qui font des dégâts. Moi, je les vois quand je vois arriver des jeunes filles qui ne se nourrissent plus, qui sont anorexiques et qui en plus prennent de l'alcool massivement, on ne gratte pas longtemps pour aller voir que derrière, dès l'enfance, il y a eu des gestes qui n'auraient pas dû être. Il y a eu des choses qui n'auraient pas dû être. Il y a des atteintes. Il faut savoir que dans notre société, Et à Angers particulièrement, on n'est pas très glorieux là-dessus. La pédophilie, ça existe. Mais il existe aussi, vous savez, que le viol est reconnu dans le couple aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont violées. Alors, plus c'est jeune, plus c'est grave. Mais il y a des femmes qui sont violées à l'extérieur, mais il y a des femmes qui sont violées par le conjoint. C'est un viol. C'est reconnu par la loi. Maintenant, ça doit être compliqué d'aller porter plainte. Mais c'est un fait. Et autant vous dire que ce type d'effraction corporelle a des conséquences sur l'âme. Et puis, il y a aussi les conséquences de nos choix. Alors, nos choix, c'est bon, l'hygiène de vie, mais nos choix, ça peut être aussi, dans certaines circonstances, on nous met en garde par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, des femmes battues, on les met en garde, on les alerte, on leur dit surtout. Surtout protège-toi. Et si ça recommence, va-t'en. On a tous, c'est dans le département récemment qu'une femme, elle avait porté plainte. Elle a pas dû, je sais pas, enfin, on peut pas juger, hein, mais son mari l'a tuée devant les enfants. C'est-à-dire que quand je dis nos choix, je ne porte pas de jugement pour celles qui sont incapables de bouger, mais de leur rappeler qu'il n'est pas normal de se laisser taper dessus parce qu'on vaut mieux que ça et que Dieu ne nous a pas créés pour ça. Et que si la seule solution, c'est de se sauver, et je sais que parmi nous, certaines l'ont vécu, c'est pas un choix facile. C'est peut-être pas un choix qui se fait du jour au lendemain, mais sachez que c'est un choix dans lequel on sera toujours accompagnant, toutes les unes comme on est. Et ne jamais juger ni celle qui reste, ni celle qui s'en va. Prions pour elle. D'accord ? Mais ça fait, c'est des choix ou des non-choix, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Mais il faut être informé, il faut être alerté. Si dans votre environnement, vous connaissez des situations comme ça, parlez-en. D'accord ? Ne rien dire, c'est renforcer un pouvoir. Alors ça, c'est les origines des atteintes du corps. Et ces atteintes du corps vont avoir des conséquences. Elles vont fragiliser notre âme. D'abord par ce sentiment d'insécurité. Vous connaissez l'expression être bien dans sa peau. D'accord ? C'est pas avoir une peau trop tendue ou trop lâche. Non, être bien dans sa peau, c'est avoir l'assurance que qu'on est quelqu'un de bien. D'accord ? Qu'on est quelqu'un d'aimable, dans le sens que l'on peut aimer. Eh bien, le fait de ne pas être bien dans sa peau, ce sentiment de fragilité face aux autres ou face aux circonstances, c'est quelque chose qui va insécuriser. C'est quelque chose que j'expliquais à mes élèves, par exemple, autour du vieillissement. Quand la personne qui vieillit se sent plus fragile parce qu'elle se déplace moins vite, parce qu'elle sait que si elle tombe, ça peut casser, parce qu'elle entend moins bien, elle voit moins bien, ça peut créer un sentiment d'insécurité. Et toutes les autres situations où, à partir du moment où notre corps est touché, sous quelque forme que ce soit, je ne veux pas tout vous rappeler, on peut vivre ce sentiment d'insécurité, vivre dans la peur, ne pas oser affronter le regard des autres. Et puis, notre image, ben c'est une partie de notre identité, que ce soit au niveau de notre visage ou de notre corps, et particulièrement pour les femmes. On est dans une société où notre image impacte beaucoup notre vie. On est dans une société où l'image du corps, l'image que l'on doit renvoyer, elle est très dure. On est dans une société, ce qu'on appelle élitiste, c'est-à-dire qu'il faut être la meilleure, la plus belle. Alors, on ne sait pas, hein, parce que celles qui sont menues voudraient être un peu plus grosses, celles qui sont un peu plus grosses voudraient être plus menues, je ne vous parle pas des cheveux. Ce qui est clair, c'est que cette société nous met des espèces d'espoirs inaccessibles. Cette société nous met des objectifs inatteignables. Et j'espère que vous savez que les photos sur les magazines sont retouchées. D'accord ? Oui, non, mais il y en a, on a beau le croire, n'empêche qu'on y regarde, hein, en se disant ça va pas le faire. Notre image, si notre identité n'est que notre image. On est un colosse au pied d'argile. Parce que notre image ne conviendra jamais à tout le monde. D'accord ? Si nous ne sommes qu'une image, je me souviens quelquefois, je parlais aux jeunes, et je disais aux jeunes filles, alors je vous préviens, c'était pas dans le cadre des réunions de jeunes, hein, je ne vais pas vous choquer, je disais aux jeunes filles, si ton objectif était une poupée Barbie, ne viens pas te plaindre qu'on te prenne pour une poupée. D'accord ? C'est ce que voudrait que la société soit, qu'on soit. Vous remettez dans l'ordre. Hein. C'est ce que la société voudrait que l'on soit, c'est-à-dire une image. Et puis chez les femmes qui réfléchissent pas trop, ou qui mettent pas trop en difficulté les autres. Mais surtout, et rassurez-vous, on n'atteindra jamais le bon profil. Mais ça fait partie. Et puis, nos atteintes du corps peuvent fragiliser aussi notre avenir. Alors, notre santé, c'est une évidence. Mais au niveau social, il n'y a qu'à voir que les personnes en situation de handicap, il y a une loi en France qui oblige les entreprises à embaucher 6% de personnes en situation de handicap. Ce n'est jamais atteint. Et si c'est atteint, c'est en faisant des entourloupes, je ne vous dis même pas. On va aussi... Nos compétences vont être liées à nos capacités physiques. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas le physique qui va avec. Il y a des activités, ben quand la vue baisse, moi j'ai commencé à prendre des lunettes, donc infirmière en usine, j'enlevais beaucoup d'écharpes dans les doigts, et à un moment, pourtant j'avais une excellente vue étant jeune, à un moment, soit l'écharpe était trop petite, soit mon bras n'était pas assez long, quand je rapprochais, je ne voyais plus, donc il a fallu que je mette des lunettes, d'accord ? Entre-temps, j'ai pris des loupes hein, pour enlever les échardes. Il y a la fatigabilité aussi. Il y a la rapidité. On n'a pas toutes les mêmes compétences dans tous les domaines. Et ça peut impacter notre capacité de travail. Ça peut impacter aussi notre image dans la société. Ça peut impacter... Vous savez, même dans la relation de couple, hein, la femme qui vieillit, l'homme qui vieillit, il faut s'y préparer, hein. Sinon, on peut avoir un homme ou une femme avec des années et des années de décalage. Vous avez des situations de crise. Hein. On parle souvent de la crise de l'adolescence. C'est vrai que c'est un méga chamboulement hein, sur tous les plans. Mais vous avez des crises à tous les âges. Moi, je vous l'ai sûrement dit, moi, j'ai des personnes, des messieurs qui sont arrivés à la retraite et qui, devant un vide social, se sont mis à boire. Sont devenus dépendants à l'alcool après 60 ans. Alors le pompon, c'est quand la femme continue de travailler, parce que souvent, elle a eu des enfants, et donc elle est obligée de travailler un petit peu plus longtemps, ou elle a commencé plus tard. Et ces hommes-là, elles vont basculer dans l'alcool. Mais ça arrive à des femmes aussi. J'ai une patiente, elle est géniale, elle est militante et tout. Elle a basculé dans le whisky coca. Et contre toute attente, elle a arrêté le whisky. En fait, dessous, il y a un problème avec l'alimentation. Alors, les atteintes du corps sur notre âme, elles vont déclencher forcément. Forcément. Quand on est atteint dans son corps, ça déclenche les émotions. Vous vous rappelez, les émotions ont un retentissement sur notre corps. Elles vont déclencher de la douleur, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale. Vous avez des atteintes qui ne sont pas forcément douloureuses physiquement, mais qui peuvent l'être, l'histoire de quelques minutes, mais qui vont déclencher des douleurs morales pendant des années, voire des dizaines d'années. Mettre en vie tout un avenir, mettre en jeu un avenir de femme, un avenir de mère, mettre en jeu un certain nombre de choses. Évidemment, j'en ai déjà parlé, la perte de confiance en soi. Alors, celle qui avait déjà ça de confiance en elle, il ne reste plus grand-chose. Et puis, ces atteintes du corps, c'est une forme de stress. Comme je vous avais dit la dernière fois, le stress, ça fatigue. On a un système de lutte contre le stress qui fonctionne relativement bien pour nous alerter. Ça a un rôle dans la vie, mais en face du stress, il faut une récupération. D'accord ? Notre corps a une capacité, une élasticité face aux circonstances pour s'adapter. Tant mieux pour nous, parce que ne serait-ce que pour s'adresser d'humain à humain, il faut une certaine élasticité. C'est jamais comme c'était prévu, ou même les aléas de la vie quotidienne, il ne se passe jamais ce qu'on attendait. Le stress, on le vit en permanence. C'est ce qui va nous apprendre aussi à affronter les événements suivants, mais ça veut dire qu'on a besoin de récupération, on a besoin de temps de pause. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, ça fatigue le corps. Hein. Une grosse émotion, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, une grosse émotion, un gros moment, comme par exemple parler en public, après, on peut se sentir vide physiquement. Hein. Et ça, c'est une forme de stress, et ça peut aller jusqu'à l'épuisement. Cet épuisement, on va voir qu'il va se jouer dans le corps aussi. Du coup, notre corps a moins de capacités, moins de compétences. Et ça devient un cercle vicieux. Alors, on va voir donc la fatigue physique et morale peut porter atteinte. Et pour ça, je vais vous donner. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais parlé d'Élie, hein, qui, de par ses grands combats spirituels, de par sa sensation d'être tout seul, de par tout ce qu'il a porté successivement dans des événements assez. Et pourtant des grandes victoires, il a été fatigué, il a été épuisé, et il a fallu que Dieu intervienne. Ce que je voudrais voir avec vous aussi, c'est parler de la femme de Job. Alors, pour celles qui ne connaîtraient pas la Bible, la femme de Job, c'est quelqu'un qui... Job, c'est quelqu'un dans la Bible, il y a un livre qui le concerne. Alors, si vous n'avez pas le moral, n'y allez pas. Job, c'est quelqu'un qui était riche, qui était reconnu, qui avait plein d'enfants, qui avait plein de chameaux, qui avait plein de champs pour nourrir les chameaux. Enfin, voilà. Et puis, un jour, Dieu et Satan vont discuter. Satan va dire à Dieu, ouais, Job, il t'aime bien parce que tu lui donnes tout. Et je vous la fais très, très courte, hein, parce que c'est... voilà. Et Dieu va dire à Satan, OK, j'enlève ma protection, mais surtout, tu n'atteins pas à sa vie. Et successivement, Job va perdre ses enfants. Il va perdre ses terrains. Il va même avoir une maladie de peau qui va faire qu'il se gratte en permanence. Et on a juste une phrase sur la femme de Job. Et une phrase très connue, n'est-ce pas ? Elle va dire à Monsieur Job, écoute, maudit Dieu est mort. Oh là là, cette femme. Rappelez-vous, c'est une maman qui a perdu ses enfants violemment. C'est une femme qui a perdu toute sa sécurité. C'est une femme qui voit l'homme qu'elle a aimé, ou qu'elle aime encore, je suppose, souffrir. Perdre du poids, souffrir, est à deux doigts de la mort, est toujours vivant. C'est une femme qui, au quotidien, vit face à rien. Et cette femme, à ce moment-là, elle va même perdre confiance en Dieu. Qui pourrait la juger ? Avec tout ce qu'elle a perdu. Parce que nous, on connaît la fin du livre de Job. D'accord ? On se prend les quelques chapitres bien douloureux parce qu'il y a toujours des gens pour dire « Toi, tu as un péché caché. Si tu vis ça, c'est que tu as un péché caché. » Il y a encore des gens qui pensent un peu comme ça. Il va vivre tout ça avec des bons amis qui vont lui poser des questions. Il va se remettre en question. Et à un moment, Dieu va intervenir. C'est très, très intéressant, la restauration de Job. Parce que ce que Dieu va faire pour Job, si vous relisez les derniers chapitres, Dieu va lui dire, « Attends, Job, regarde le ciel, tu as compté là ? Tu sais comment ça marche, la peau d'un crocodile ? Je ne le connais pas par cœur. Hein. Tu sais comment les étoiles elles se mettent les unes derrière les autres, toi ? Tu sais comment les saisons elles arrivent ? Dis donc, tu as réfléchi, toi, avec... Tu peux dire, par exemple, au soleil de revenir en arrière ? Et là, Job va dire, waouh, ok, j'ai compris. Toi, t'es grand. Tu tiens toute chose. Tu as ma vie dans ta main. D'accord ? Le fameux verset. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est-à-dire que cet homme-là, C'est la réponse qu'il va faire à sa femme. Et cet homme-là, par la suite, il va découvrir qu'il a un Dieu créateur. Il va découvrir qu'il a un Dieu qui tient tout dans ses mains. Et qui sait ? Qui sait ce qui est le meilleur pour lui ? Et le livre se termine bien, il est restauré. Et le petit, l'humour de Dieu, c'est qu'il lui dit, bon, maintenant t'es restauré, tu sais quoi, tu vas aller prier pour tes copains, parce que je pense qu'ils ne me connaissent pas et qu'ils auraient besoin. C'est l'humour de Dieu. Alors, on voit à travers ça que la fatigue physique et morale va porter atteinte à notre volonté. Vous savez, quand on est fatigué, quand on n'y croit plus, ben on n'a plus envie d'y aller. Hein. Ça va porter atteinte à la gestion de nos émotions. Vous savez, gérer ses émotions, déjà, c'est pas facile. Hein. Y a des moments où on le fait mieux que d'autres. Par exemple, moi, quand j'entends les histoires de vie des personnes qui viennent me voir, il y a des fois, dans ma tête, je m'accroche à la table en me disant « mais c'est pas possible que la nature humaine soit aussi pervertie ». En me disant « mais comment cette personne fait-elle pour tenir encore debout ?» Mais en face d'elle, je vais rester très professionnelle. Je vais pas lui dire « oh ma pauvre, mais c'est pas possible ce qui vous est arrivé, mais non, mais vous faites comment ?» Parce que là, vraiment, c'est pas ça qu'ils viennent chercher. N'empêche, que je me souviens très bien d'une fois, et puis il y a ceux qui sont agressifs. Je ne sais pas si vous avez déjà accompagné des personnes qui souffrent. Ça arrive qu'il y a des personnes, leur souffrance est tellement forte qu'elles vont être agressives vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que vous allez vouloir prendre de leurs nouvelles et on vient. Ça te regarde ? T'es jalouse ? Non, mais ça me... C'était juste pour te demander si ça allait bien. Mais il y a cette agressivité qui est liée à la douleur. Elles sont à vif, ces personnes. Et autant vous dire que j'en ai quelques-uns, et j'ai notamment un jeune homme qui est très particulier, qui a un langage très fleuri. Et j'ai l'habitude, quand il vient me raconter ses péripéties avec Pôle emploi, ses péripéties avec la Sécu, ses péripéties avec la prison, il a un certain parcours, donc avec tout le pénitentiaire et tout. En général, j'ai tout un épisode où il faut que ça sorte, donc je sais que ça ne m'est pas adressé. Et je me dis, vaut mieux que ce soit moi que... Parce qu'il a fait la même chose une fois avec une secrétaire d'une post-cure. Et puis après, il m'a dit, j'espère qu'elle va m'accepter. On va bien voir si elle a entendu ou pas. Voilà. Et un jour, comme d'hab, il me fait la même chose. Et ce jour-là, j'ai été blessée. Je me suis dit, mais peut-être que je ne suis pas à la bonne place. Peut-être qu'il a raison et tout ça. Puis après, machine arrière. J'y ai réfléchi, je dis non. C'est juste que là, en ce moment, je suis très fatiguée, je suis très fragilisée. Je travaille dans une équipe qui va très très mal et par moments, ça se ressent vraiment. Et j'ai dit, bon, ça c'est signe que je suis fatiguée, qu'il va falloir que je prenne un petit peu de distance parce que je suis atteinte. Alors que je le connais par cœur. La dernière fois, je n'ai pas eu de gros mots, je me suis dit, et c'est venu. Donc voilà, je le connais vraiment. Sauf que là, cette fois-là, j'ai été atteinte parce que j'étais fatiguée, j'étais fragilisée. Donc la gestion des émotions. La capacité de réflexion. On dit que la nuit porte conseil. Des fois, ce n'est pas faux. Mais il faut pouvoir s'endormir. La capacité de réflexion, vous l'avez toutes vue. Vous savez, il y a des moments où il faut que quelqu'un nous dise un truc qu'on sait déjà. Mais que on a beau, on n'y pense pas. Parfois même quelque chose qu'on a déjà vécu. J'ai une amie qui est psychologue et une fois elle vit un truc, elle était mais effondrée. Mais je lui dis mais enfin t'es psycho, tu peux pas remettre le truc dans son contexte et puis tu vas comprendre. Oui mais moi ça me touche. Ok, la réflexion on n'atteint plus là. C'est pas de la moquerie, hein. On fait tout ça. Et comme la femme de Job, parfois ses souffrances physiques avec la fatigue. Avec la réflexion qui est usée. C'est même prouvé physiologiquement aujourd'hui. Par exemple, les personnes qui consomment des substances qui agissent sur le cerveau, à un moment, les neurones fonctionnent moins bien. Hein. Là, ça ne connecte plus. Et ben, sachez que, par exemple, quelqu'un qui fait de l'anorexie, quelqu'un qui s'empêche de manger, pour être maigre, on ne juge pas non plus, hein, parce que là, derrière, il y a des choses qui se jouent. Mais cette personne-là, elle va atteindre ses neurones. Et j'ai même un patient, la semaine dernière, qui m'a dit... qu'il essayait d'avoir des enfants, enfin au moins, et que sa femme était en procréation médicalement assistée parce qu'elle était en préménopause. Je dis, vous avez une grosse différence d'âge ? Il dit non, elle a 36 ans. Anorexie. Donc, les atteintes, enfin, le corps va avoir cette capacité, va se détruire, et ce corps qui se détruit va nous atteindre dans nos émotions, peut nous atteindre dans nos réflexions, dans notre volonté aussi. Typiquement, la dépression, c'est quelqu'un qui n'a il a plus de volonté. C'est pas la peine de lui dire de se bouger, il peut pas, il n'a pas le code. Hein? Donc, et là, on peut arriver à ne plus faire confiance à Dieu. Comme la femme de Job, de dire, c'en est trop. Dieu ne m'aime plus. Dieu ne m'a jamais aimé. Dieu m'a abandonné. Dieu ne veut rien faire pour moi. Alors, le summum, je ne mérite pas que Dieu s'occupe de moi. Je ne sais pas s'il y a une femme qui a jamais pensé ne pas mériter l'amour de Dieu, qu'elle lève la main. Et donc, c'est un cercle vicieux où l'atteinte de l'âme va retentir sur le physique, on va avoir une perte d'énergie, on va avoir un épuisement, et ça va tourner en rond, comme on l'a déjà dit. Vas-y, continue. Donc, dans la parole de Dieu, quelle place au corps et surtout celui de la femme ? Eh ouais, on en parle. Et puis ça traîne pas. D'après vous, quelle est la première fois qu'on peut parler du corps dans la parole de Dieu? Ouais. Oui. Ah oui, alors ça c'est le bon côté, ça c'est le Dieu créateur. Non mais t'as raison. Avant. Ouais, on va le voir. Vas-y. Depuis la chute, Genèse 3:7, on est quand même bien au début, hein. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, ce qu'on voit là, c'est que un des premiers effets de la chute, ça a été le sentiment de honte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont rejeté Dieu, ils ont tout misé sur eux-mêmes, l'âme a pris une place prépondérante. Alors là, ce n'est pas moi qui fais ce commentaire, hein. C'est un commentaire que j'ai trouvé, mais je trouve qu'il est très, très pertinent. L'âme a pris la place prépondérante. L'attention de l'âme se fixe sur le corps. Elle rougit d'être l'esclave de ce corps sur lequel elle aurait dû régner. Dieu nous avait créés pour régner, d'abord sur notre corps. Et avec la chute, oups, là, ça y est, ça commence à déraper. On s'aperçoit que ce corps... Ben déjà, je pense qu'il y a eu la sexualité. Ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas faits pareil. Hein. Et du coup, peut-être même les premiers élans sexuels. On ne sait pas à quel moment ça s'est passé, la chute. Hein. Depuis combien de temps ils étaient dans le jardin, ce n'est pas noté. Et donc, semblable à des enfants, Adam et Ève n'avaient point porté jusque-là leur attention sur la différence des sexes. Et au moment où ils s'en rendent compte, ils se sentent empressés de la voiler. Ils emploient pour cela le seul moyen qu'ils avaient sous la main, des feuilles de figuier. Effectivement, c'est un peu plus large que la moyenne. Mais, comme quoi, ils avaient un cerveau qui fonctionnait. Ça n'empêche que, dès le départ, il y a eu un problème sur l'identité et sur le corps. D'accord ? Bon, c'est rassurant de dire qu'on n'est pas les premières. Ensuite, dans l'Ancien Testament, ben, les femmes pouvaient être rejetées parce qu'elles étaient stériles. Notre sœur nous a parlé de la souffrance de ne pas être mère. À cette époque-là, non seulement on souffrait de ne pas être mère, mais on souffrait aussi du rejet. Parce que forcément, il y avait une faute. Puis à l'époque, on n'allait pas chercher qui de l'homme, qui de la femme, et qui des deux. C'est la femme. Hein. Certaines maladies de peau pouvaient isoler socialement. On pense souvent à la lèpre, mais il faut savoir que beaucoup de maladies de peau isolaient. Quand j'ai fait toute l'étude sur le temple, je peux vous assurer que c'est, voire même la perte des cheveux, hein, pouvait inquiéter. On pourrait dire aujourd'hui, par rapport à ces maladies que j'ai perdues, qu'on pourrait parler de psoriasis, d'eczéma, de lupus, de mycose. Bon, j'arrête parce que là, c'est gore, hein, la dermato. Donc, c'est quelque chose de très particulier. Et être atteinte sur sa peau peut faire qu'on peut se, on peut se sentir isolé. Et la perte de sang. Alors, mesdames, je ne vous fais pas de dessin. Hein. On a un corps qui perd du sang régulièrement. Et bien, la perte de sang rendait impur. C'est pour ça que les femmes ne pouvaient pas aller dans le tabernacle. D'accord ? Et quand on parlait, je disais à Dina, voire même le postpartum, vous savez que pour celles qui ont eu un enfant, il y a tout un temps avant que notre corps se remet en place et on perd beaucoup de sang. Ben, c'était un temps où la femme était impure, elle était à part. Donc dans l'Ancien Testament, il y a une notion du corps, surtout après avec toute cette rigidité qui s'est instaurée autour des commandements de Dieu, la notion du corps a été, comment dire, facilement, on était rejeté par son corps. Même si pour les Hébreux, contrairement à ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, pour les Hébreux, corps et âme faisaient qu'un. Ils associaient vraiment, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer nous, parce que nous on redécouvre tout ça, eux ils l'avaient déjà. Alors on va arriver dans le Nouveau Testament et on va parler de Jésus. Et bien vous savez quoi, Jésus? Il avait un corps. C'est évident de le dire. Ça veut dire qu'il a traversé les mêmes difficultés que nous. Alors, bon, c'était pas une femme, mais on lui en voudra pas. Donc Jésus a été le Fils de l'homme, il a été incarné dans un corps. Et donc, il a vécu les aléas humains. Il est passé par l'enfance. Il est passé jusqu'à l'âge adulte. Accessoirement, il a légèrement connu la souffrance. Imaginez déjà de par sa vie sur Terre, puis sa mort. Souffrance qui l'a amené, enfin, voilà, cette souffrance qui l'a amené jusqu'à mourir. Et alors là, en matière d'injustice, c'est le summum, parce que c'était vraiment immérité. On l'a dit, c'était écrit dans Ésaïe. Qui a cru à notre messager? Qui a révélé la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi tout droit, comme une jeune pousse ou comme une racine sortant du sol. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes. Un homme de douleur habitué à la souffrance. Il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Alors mes sœurs, si parmi vous, il y en a qui ne s'aiment pas, si parmi vous, il y en a qui n'aiment pas son corps, si parmi vous, il y en a qui ont honte de leur corps ou qui ne supportent pas le regard des autres, si parmi vous, il y en a qui sont en difficulté avec leur image, vous avez quelqu'un qu'il faut connaître de mieux en mieux. Vous avez quelqu'un qui sait ce que c'est, qui est passé par là. Mais il n'en est pas resté là. Jésus, on ne le reconnaît pas à tel point qu'à un moment, on va lui dire, tu dis que tu as connu Abraham, voilà, on va lui poser des questions, puis on lui dit, mais t'as pas 50 ans? Non, il en avait 30. Ça veut dire qu'il avait un corps usé. Et qu'à l'époque, il devait mourir vers 60, 70 ans, ça devait déjà être des personnes âgées. Il avait un corps qui était habitué, il faisait plus vieux que son âge. Alors probablement parce qu'il était charpentier. Les charpentiers sont des gens qui vivent sur le toit, par définition, à l'extérieur. C'est un boulot physique. Et même aujourd'hui, ça fait partie des emplois où on laisse partir les personnes très tôt, parce que sinon, elles ne profitent pas de leur retraite. C'est des métiers qui usent. En plus, Jésus... on pense qu'il a élevé ses frères et sœurs. Joseph disparaît très très vite dans la vie de Jésus. Il était vieux avant l'âge. Et on peut dire, donc, tu peux passer à la suite. Pourtant, malgré tout ça, alors nous, on aurait dit, waouh, ça suffit. Hein. Déjà, 30 ans de galère. Et pourtant, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait abandonné, frappé, humilié. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus, j'ai un collègue l'autre jour, deux collègues qui sont chrétiens, catholiques, avec qui on discute. Puis l'autre jour, il me dit, bah ouais, Jésus, il a échoué. Je dis, quoi? Il me dit, ouais, il a échoué, il est mort. Je dis, on en reparlera, parce que pour moi, c'était l'objectif de sa vie. Mais on en reparlera, je te promets. Jésus, alors qu'il n'avait pas péché, il a accepté de mourir pour nous. Il est mort, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos souffrances. Et il est mort pour nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé par lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et ça, c'est tout le paradoxe hein, de Dieu. C'est que par les blessures de Christ, nous sommes guéris. Et il nous donne la paix. Et quelque part, il y a un lien entre le corps et la paix. Il nous guérit, il nous donne la paix. Et à la croix, à la mort de Jésus, aujourd'hui, nous n'avons plus de conditions physiques pour nous approcher de Dieu. J'ai envie de vous dire, mesdames, on n'a plus d'excuses pour s'approcher de Dieu. On n'a plus de raison de se priver de la présence de Dieu. C'est ce que j'ai voulu montrer le samedi soir à l'église. C'est ce qu'on a évoqué avec ce voile qui s'est déchiré. On a un accès à notre Dieu trois fois saint. Et pourquoi on a accès à notre Dieu trois fois saint? Pas parce qu'on le mérite. Hein. C'est pas, vous fatiguez pas, on ne le méritera pas. C'est juste parce que Jésus, lui qui n'avait pas péché, est mort à la croix. Ne pas accepter ça, c'est faire peu de cas du sacrifice qui a été fait. Et cette paix. Alors, je ne dis pas que toutes les maladies sont guéries. Ce n'est pas ça que je prétends. Je ne prétends pas que les personnes qui ne sont pas guéries dans leur corps ne sont pas bénies. D'accord ? Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que la paix intérieure fait que on a cette vie quand bien même on a les blessures. Rappelez-vous ce que disait Paul. Ma grâce te suffit. Dieu est souverain. Il va guérir ou pas guérir. Ce qui est sûr, c'est qu'on vieillit tous. D'accord ? Ce qui est sûr, c'est qu'on va tous mourir. Et en général, c'est exceptionnel qu'on meure en bonne santé. Hein ? Donc, et voire même les personnes qui vivent très longtemps, souvent, elles en ont tellement marre qu'elles ont hâte de partir. Mais pour revenir à Jésus, qui est mort sur la croix pour porter nos souffrances et nos douleurs. Et lui, il ne va pas nous rejeter en fonction non plus de notre physique. Il est vraiment, lui, il ne regarde pas notre physique. J'ai envie de vous dire, mesdames, si vous avez des enfants ou des neveux, laquelle d'entre vous refuserait de prendre un enfant sur ses genoux sous prétexte qu'il n'est pas beau ? Surtout si c'est le vôtre. D'accord ? Laquelle d'entre vous refuse de s'approcher d'un enfant sous prétexte qu'il ne sent pas bon ? Combien parmi vous ont un mari qui nettoie quand un enfant a vomi ? D'accord. Donc, qui s'y colle ? D'accord ? Et vous croyez que Dieu pourrait nous rejeter ? Notre Père céleste, notre Papa céleste, celui qui nous a créés, celui qui a donné son Fils pour nous ? Alors que vous, alors excusez-moi de vous le dire, vous n'êtes pas parfaite. Enfin, pas plus que moi. Hein. Je ne prétends pas être parfaite et encore moins être une maman parfaite. Mes enfants sont prêts. Vous ne répétez pas. Je ne suis pas et je n'ai pas été et je ne pense que je ferai encore des erreurs. Mais nos enfants, c'est eux qui s'en vont. Ce n'est pas nous qui les rejetons. D'accord ? Donc Dieu ne vous rejettera jamais. Quel que soit ce que vous avez vécu, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit qui que vous soyez, quelle que soit l'image que vous avez de vous-même, Dieu ne vous rejettera jamais. Pensez à l'amour que vous avez pour vos enfants. L'amour de Dieu pour vous, il est beaucoup plus. Alors, justement, vas-y. Quelle restauration Dieu peut faire ? Dieu peut nous guérir sur le plan physique, sur le plan psychosocial, sur le plan spirituel. Eh bien, notre corps peut subir des conséquences des agressions intérieures et extérieures. Notre âme peut souffrir des atteintes du corps. Dieu peut guérir nos corps et nos âmes. Et surtout, par-dessus tout, il peut restaurer son esprit dans nos vies. J'ai envie de vous dire, le problème, il ne vient pas de Dieu. Vous prenez ou vous ne prenez pas ? Vous croyez ou vous ne croyez pas ? Il y a un super buffet derrière. Celles qui ressortent avec la faim, c'est parce qu'elles veulent bien. Hein. D'accord? Mais vous pouvez ressortir avec la fin. Alors, je vous ai dit que Dieu nous aimait. Ben, on va continuer. Matthieu, Jésus dit, ne vend-on pas deux moineaux pour un sou? Alors, j'ai pas essayé, je sais pas ce que ça vaut. Cependant, a priori, c'est quelques centimes. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. Quant à vous-même, même vos cheveux sont comptés. D'accord? Ça veut dire que Dieu connaît chaque détail, même quand on perd les cheveux. N'ayez pas peur, vous valez beaucoup plus qu'un moineau. Accessoirement, vous valez au moins le prix de la croix. On continue. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Rappelez-vous, vous êtes, à partir du moment où vous avez accepté Jésus, à partir du moment où vous avez accepté qu'il soit mort sur la croix, son esprit habite en vous. Vous prêtez votre maison à n'importe qui, vous? Moi pas. D'accord. Votre corps, il est habité par Dieu. Désolé de vous le dire. Le Saint. Alors, attention, je ne parle pas de possession. Mais le Saint-Esprit qui habite en vous, il va agir. C'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ, accessoirement. C'est le même qui est à l'origine de la création aussi. Vous savez quoi? Il n'y a pas meilleur dépanneur que celui qui a fait un engin. D'accord? Vous savez, vous, je sais pas, vous avez, ça vous arrive d'organiser une pièce et puis vous mettez un truc là, parce que ça va servir là, et puis ça va servir là. Puis quelqu'un vient ranger à votre place. On ne trouve plus rien. Ça ne fonctionne plus. D'accord? Ben, pour savoir où sont les choses dans votre corps, dans votre tête, dans vos émotions, dans votre vécu, il y en a un, c'est le Créateur. Il a tous les codes, il a le mode d'emploi. Alors déjà, il nous a donné un mode d'emploi, ça c'est cool. Encore faut-il le respecter. Et alors, le verset que j'aime par-dessus tout. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça tombe bien, on va faire une armée. D'accord? Alors, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadée que ni la mort, j'y mettrai ni la maladie, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances. Et puis Paul, il n'a plus de vocabulaire, donc il dit, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que si Dieu nous aime, c'est parce que Jésus l'a payé. D'accord? Et si Dieu nous aime, ne rejetons pas cet amour. Et donc, Dieu nous demande de nous aimer, d'avoir un équilibre entre notre corps et notre esprit. C'est lui qui peut nous aider à nous aimer. Parce que si je vous dis aimez-vous, vous allez me dire, Marido, t'es sympa, mais t'es pas dans ma carcasse. D'accord? C'est le Saint-Esprit en vous qui peut le faire. N'essayez pas de le faire par vous-même. Hein. Vous regardez et dire « je vais bien, tout va bien », ça ne marche pas. Cet amour, c'est Dieu qui va vous le donner par le Saint-Esprit. Dieu nous demande de nous aimer. Vous vous rappelez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le « comme toi-même », ça peut faire mal des fois. D'accord ? Des fois, on aime plus le prochain qu'on s'aime soi-même. Mais c'est aussi aimer ce que Dieu a fait en nous. C'est aussi prendre soin de nous-mêmes. C'est vivre dans l'équilibre. C'est aussi ce que nous montrons de nous-mêmes, que ce soit dans l'apparence ou dans ce que nous disions. Une fois, je discutais avec Dina et je lui disais, tu vois, là, j'enseigne à un niveau BTS. Moi, je suis infirmière. J'ai un niveau reconnu Bac plus 2. Vous voyez le truc? J'enseigne au même niveau que moi. Enfin, normalement, je n'aurais pas le droit. J'ai fait des diplômes supplémentaires. Mais je lui disais, je ne me sens pas légitime. Et Dina m'a rappelé. Si Dieu t'a donné les compétences, quel droit tu as de dire que tu n'es pas légitime? Alors, rassurez-vous, Dieu m'avait bien préparé avant, parce que la pauvre, elle n'osait pas me le dire, mais Dieu avait bien préparé le terrain. Mais c'est ça. Dieu Ne regardez pas ce que Satan vous montre de vos corps, de votre âme. Ne regardez pas ce qui ne va pas, ce que Satan vous montre et vous fait le focus à la loupe sur ce qui ne va pas. Regardez tout ce que Dieu vous a donné comme compétence à côté. À travers vos souffrances et vos douleurs, comme disait le pasteur hier, vous avez eu des victoires. Oh, vous n'avez pas gagné la guerre, mais de toute façon, personne ne la gagnera. On va toutes tomber, on va toutes mourir, et probablement malades. D'accord ? Mais vous êtes là. C'est-à-dire que vous avez cette compétence. Vous connaissez des gens. Vous pouvez les soutenir. Peut-être même qu'une personne qui pleure à côté, quand vous allez la prendre par l'épaule, elle va sentir que vous ne faites pas semblant. Pourquoi ? Peut-être que vous y êtes passé, vous aussi. Et on a besoin de ça. On a besoin les unes des autres. Et vous savez quoi ? Vous avez le plus grand des trésors dans vos cœurs et dans vos mains. Je peux vous assurer que ce que je vous dis ce soir, je voudrais le dire tous les jours à mes patients. Tout ce que je peux leur dire, c'est grignoter un petit peu pour trouver qu'ils retrouvent un petit peu de confiance en eux, un petit peu de lien dans la famille, un petit peu de ci par-ci par-là, quelques médicaments pour atténuer les effets secondaires. Je ne peux pas leur parler de l'amour de Dieu. Et quand vous avez une personne en face de vous qui vous dit « Mais je mange ou je bois à la hauteur du vide que j'ai en moi. » D'accord ? Et ces gens-là, ils sont autour de vous, ils sont à côté de vous. Et peut-être que ce que vous traversez, comme pour la reine Esther, Dina nous l'avait rappelé, peut-être que c'est pour ce temps-là, pour ces personnes-là, pour vous-même, mais aussi pour que vous rendiez gloire à Dieu de tout cela. Parce que vous êtes là ce soir. Parce que nous sommes ensemble, nous avons prié pour vous, le Seigneur veut vous bénir, quel que soit, comme disait Valérie, le degré de là où vous devez avancer, dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu. Peut-être que vous êtes comme le petit bébé là qui ne sait pas nager. Ben, on va vous accompagner. Il ne sait pas nager. Hein. voilà. Il ne sait même pas marcher d'ailleurs. Donc, on va, voilà, chacune là où on en est. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu vous aime, que cet amour qu'il a mis en vous est à la hauteur de ce qu'il a fait. Alors, pour finir, j'ai demandé à Hélène, notre très chère Hélène, je l'ai appelée ce midi et je lui ai dit « Hélène, est-ce que tu peux me trouver des fleurs différentes ?» Alors là, vous voyez que je me suis adressée à la bonne personne. C'est magnifique. Il y a toutes sortes de fleurs. Alors, je ne prétendrai pas vous dire laquelle sert à quoi. D'accord ? Je ne prétendrai pas vous dire pourquoi. Mais si on prend, je ne sais pas, n'importe laquelle, évidemment, oups, j'en ai deux dans les mains. D'accord ? Est-ce qu'elles sont pareilles ? Est-ce que celle-ci pourrait tenir sur ses tiges, toutes ces fleurs, ça, en plusieurs volumes ? D'accord ? Le pied de ça, est-ce qu'il aurait du sens à être aussi gros pour ça ? D'accord ? Celle-ci, elle est toute seule. Bon, elle a une capacité de vivre toute seule, elle. D'accord ? Celle-ci, vaut mieux pas qu'elle soit faite pour vivre toute seule, parce que ça va être compliqué. D'accord ? Je suis désolée, Hélène, tu l'aurais sûrement pas fait comme ça. Celle-ci, elle va pas porter les mêmes fruits que... Bah celle-ci, c'est déjà du fruit ou c'est de la fleur, ça, Hélène ? Ça, c'est du fruit, hein. Ouais. Donc, forcément, ça va pas, à mon avis, ça va donner des trucs qui vont ressembler à des toutes petites tomates, non ? Rien à voir. Vaut mieux que je reste infirmière. On demandera, je vous promets, un jour, on demandera à Hélène de nous donner... Elle a une somme de savoir, Hélène, c'est un bonheur. Je rends grâce à Dieu pour Hélène. Bon, voilà, je crois que vous avez compris le bouquet. On est toutes des fleurs différentes. Il est magnifique, ce bouquet. Et à qui viendrait l'idée de dire telle fleur est plus belle que telle autre, telle fleur sert mieux que l'autre, telle... Ça ne vous viendrait pas à l'idée ? On a, comment ? Elles font un bon bouquet. Gloire à Dieu. Donc, pour finir, Dieu veut que nous aimions notre corps, que nous en prenions soin, que nous soyons... Vous savez la parabole des talents ? Vous savez quoi ? Je pense que notre corps, c'est aussi un talent. Est-ce qu'on va l'enterrer ? Est-ce qu'on va le laisser mourir ? Ou est-ce qu'on va le faire fructifier ? Dans sa faiblesse, dans ses difficultés. Alors, il ne faut pas croire qu'il suffit de prier. Parfois, on a besoin les unes des autres. La dernière fois, j'ai dit aux sœurs, après, priez pour moi. Et je vous assure que ça a fait une différence. Je sais que... Parce que là, j'étais en paix ce soir. La dernière fois, je suis rentrée chez moi. Alors, c'était bien, après avoir parlé sur les émotions qui retentissent sur le corps. Mais je suis la reine pour ça. Sauf que Dieu m'a appris à écouter mon corps. Et je sais quand arrêter. J'ai des signaux d'alerte. Parfois, c'est mon mari ou mes enfants. Mais à un moment, il faut arrêter. Et voilà. Et le lendemain, j'avais des douleurs partout. Et on en a parlé. Et Sandrine me dit, oh, on n'a pas prié pour préparer la réunion. Cette fois-ci, j'ai demandé aux sœurs, on en a parlé. On vous a porté dans la prière. Elles m'ont porté dans la prière. On a porté le groupe de chant dans la prière. Le Saint-Esprit, vous l'avez entendu, Valérie est là, dit ce soir, le Saint-Esprit veut agir. Toutes, on a quelque chose à prendre. Toutes, on a quelque chose que Dieu veut restaurer pour aimer notre corps, aimer ce que Dieu en a fait, aimer ce que notre âme peut faire par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Il y a des fleurs, alors celle-ci, je ne sais pas, peut-être celle-ci. Si vous la laissez, bon Hélène, si je dis une bêtise, tu m'excuses, c'est peut-être pas la bonne fleur. Si vous la laissez dans une eau bleue très longtemps, la fleur peut devenir bleue. Celle-ci, ça marcherait ? Waouh, j'ai de la chance. Alors, l'idée. Vous savez quoi ? C'est l'idée que si je prendrais cette fleur, à l'origine, après la chute, on est comme ça. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, il nous fait baigner dans un arc-en-ciel. Alors, c'est pas possible. Mais par la grâce de Dieu, on devient de la couleur de Dieu. Nos pensées peuvent devenir les mêmes pensées que Dieu. Nos sentiments peuvent devenir les mêmes sentiments que Dieu. Si vous êtes attentive à ce que Dieu vous dit par sa parole, si vous êtes attentive à ce que vous recevez, pas que quand vous êtes au culte, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous écoutez des cantiques, quand on est entre nous, parfois même Dieu se sert des personnes de l'extérieur pour nous parler. Si on parle à Dieu et si on sait l'écouter, on sait se poser de temps en temps et se taire, et Dieu nous remplit par son Saint-Esprit. On a des pensées qui viennent, on se dit « Oups !» Dieu peut agir par son Saint-Esprit. Je vous parlais des personnes que j'accompagne. Des fois, me vient une idée, et plus elle est farfelue, plus j'ai envie de la dire. Enfin, elle me paraît farfelue. Et je pose une question. Et là, les gens me regardent, c'est arrivé plusieurs fois, en disant « Mais on ne m'avait jamais dit ça. » Vous savez quoi ? Le Saint-Esprit se sert de moi. Dans mon métier, le Saint-Esprit se sert de moi pour vous parler ce soir. Le Saint-Esprit se sert de chacune d'entre nous. Laissons-nous imprégner de ce Saint-Esprit pour nous aimer, pour faire de nous ces guerriers debout. Vous savez, à la guerre, il y en a qui sonnent du clairon. Tout le monde ne porte pas des armes. Il y en a qui sont juste là. Il y a des infirmiers aussi. Tout le monde est... vous croyez qu'à l'armée, en période de guerre, la personne qui se tient debout pour faire à manger... Elle ou Chantal ? Pour faire à manger aux troupes, elle n'est pas importante ? D'accord ? Cette armée debout qui se lève, elle a besoin de tout le monde, de toutes les compétences que Dieu a mis entre nous. Nos talents, ne les enterrons pas, faisons-les fructifier pour Dieu. Et que son Saint-Esprit nous aide, surtout nous les femmes, à nous aimer tel qu'il nous a faites, tel qu'il a voulu que nous soyons, avec nos écorchures, avec nos blessures, avec nos cicatrices. Un détail, Jésus a gardé les cicatrices de la crucifixion. Ses disciples ont pu les voir. Il aurait pu les enlever. Jésus avait des cicatrices. On peut avoir des cicatrices, mais Dieu veut guérir l'intérieur. Et si Dieu guérit l'intérieur, même avec les cicatrices, excuse-moi Élodie, même avec des traces sur son corps, on peut glorifier Dieu comme le fait Élodie. Vous avez dû la voir, elle n'en parle pas. Élodie, elle glorifie Dieu par son corps. Une autre fois, parce que j'ai bouffé tout le temps, elle vous racontera comment elle les a eues. C'est une grâce de Dieu. Ça aurait pu la détruire. Ça aurait pu détruire son être intérieur. Mais on est bien d'accord, après la louange qu'on a eue hier, Élodie est une glorifie Dieu par son corps, par sa vie, par sa voix. D'accord ? Soyons toutes dans des domaines spécifiques à chacune d'entre nous. C'est bouquet à la gloire de Dieu. Parce que nous serons remplis de son amour. Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que notre cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Et on fera la différence, même si on est au plus bas physiquement. Seigneur mon Dieu, mon Père, je veux te demander d'éclaircir toutes les paroles que j'ai dites ce soir, de permettre que chacune reçoive ce dont elle avait besoin, particulièrement dans tout ce que j'ai dit. Seigneur, refais le tri pour que ça atteigne les pensées là où toi tu veux le faire. Seigneur, je t'apporte chacune de ses sœurs. Je t'apporte chacune dans ses besoins, dans son passé. Chacune, Seigneur, là où elle est rendue aujourd'hui, avec ses désespoirs, avec ses peurs, ses pertes de confiance, dans tout ce qu'elles ont perdu. Seigneur, je viens avec elles devant toi, pour que ce soit toi qui fasses de nos faiblesses des forces, qui fasses de nos faibles talents, que tu les multiplies, que là où nous sommes, tu fasses que nous puissions glorifier ton saint nom. Et Seigneur, que là où nous sommes, nous puissions être cette lumière dont le monde a tellement besoin, ce sel de la terre, ne pas être amer, mais d'avoir ce bon goût autour de nous, de réchauffer par notre présence, par l'amour qui déborde de nous. Seigneur, que chacune, là où elle est, à l'âge où elle a, spirituellement, là où elle est spirituellement, que ce soit au bord de l'eau juste pour y mettre les doigts de pied, ou que ce soit pour se lâcher à nager, quelle que soit la dimension de la profondeur de l'eau où elle peut aller avec toi, Seigneur mon Dieu, je te demande d'accompagner chaque sœur ce soir et de les bénir et de les fortifier. Seigneur mon Dieu, tu es ce Dieu d'amour, tu es ce Papa qui nous aime tellement, tellement, tellement. Au-delà de ce que nous pouvons aimer nous-mêmes, nos propres enfants, de ce que nous pouvons faire pour eux, toi, tu nous aimes. Tu te réjouis de nos victoires. Tu te réjouis de nos premiers pas. Tu te réjouis de nos premières courses. Tu te réjouis de nos premiers dessins. Tu te réjouis de nos premières phrases. Seigneur mon Dieu, mon Père, oh, combien je t'aime, combien je veux glorifier ton nom pour tout ce que tu as mis devant chacune d'entre nous. Et cette armée que tu veux lever, parce que combien le monde a besoin de te connaître, combien les gens autour de nous ont besoin de te rencontrer, combien les gens autour de nous ont besoin, Seigneur, de connaître des croyantes qui tiennent debout parce qu'elles sont soldats de l'armée de Dieu, chacune à sa place. Seigneur, notre société meurt et tu le sais, de chercher un secours, de chercher des solutions. Et Seigneur, que chacune d'entre nous, nous puissions apporter ces solutions à nos voisines, à nos collègues, à nos compagnons, aux personnes que nous croisons, pour que ton nom soit glorifié dans leur vie, qu'elles puissent te connaître à leur tour et être guéries, que ce soit physiquement ou intérieurement, parce que c'est toi seul qui peux le faire. Toi, le Dieu créateur, le Dieu trois fois saint, celui qui connaît toutes choses, qui connaît aussi notre avenir, tu as tout dans ta main. Tu es ce Dieu glorieux et puissant. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Amen.
Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par son saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvée. Oh, 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 j'allais en de lieu en lieu, mais tu m'as retrouvée. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais en de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Tu prends nos échecs, Seigneur.
Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais en de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Tu fais de nous des vases d'argile, Seigneur. Tu fais de nous de vases d'honneur, Seigneur. Nous voulons te servir et que tout soit, Seigneur, ta gloire en nous. Que tout soit, Seigneur, l'œuvre que tu accomplis en nous, Seigneur. La puissance de ton nom sur nos vies et dans nos corps, Seigneur. Nous voulons manifester la gloire de Dieu, Seigneur, dans tout ce que nous vivons, Seigneur. Parce que c'est ton esprit qui atteste ces choses en nous, Seigneur. Tu nous as ramenés de la mort à la vie, Seigneur. Nous sommes vivantes aujourd'hui, nous voulons le proclamer, Seigneur. Tu nous as donné ta vie à la croix, Seigneur. Nous sommes ressuscités avec Christ, Seigneur. La vie de Christ est en nous et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Seigneur, nous ne sommes plus mortes, mais nous sommes vivantes. Car le nom de Jésus est inscrit sur nos vies, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes tes filles que tu as ressuscitées. Seigneur, oh Seigneur, merci pour ton œuvre en nous, Jésus. Merci pour la vie, merci pour la résurrection avec toi. Merci Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous, Seigneur. Merci pour ce flot qui coule en nous jour après jour, Seigneur. Oh Jésus, alléluia.
Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours.
Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours.
Alléluia, Jésus.
Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour pour moi. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour pour moi. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Oh Dieu. Attire-moi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Attire-moi, toi, Jésus. Oh.
Alléluia, Jésus.
Merci, merci pour cette louange formidable. Et puis merci Marie, Marido. Est-ce que vous serez d'accord pour la remercier parce qu'on est boosté là? Ça nous a fait du bien. Je ne sais pas ce que tu as mangé ce midi, mais wow! Super, merci. Alors qu'on puisse partir vraiment en nous regardant